Merci de nous écouter, il est 19h sur France Inter. Claire Chaudière pour le journal. Bonsoir Claire.
Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Dans l'actualité ce soir, cette pression américaine qui monte sur le conflit ukrainien à grand renfort de promesses de livraison d'armes alors que la diplomatie russe brandissait hier la menace d'une troisième guerre mondiale. Des dizaines de dirigeants réunis à Ramstein en Allemagne, nous dira notre correspondant à Berlin, alors que le chef des Nations Unies est élu à Moscou aujourd'hui. Deux jours après le verdict des urnes en France et alors que l'heure est au casse-tête pour la composition du gouvernement pour les législatives, le président remercie ce soir lors d'un déplacement ceux qui ont participé à sa campagne, tandis qu'Aller prévient ses poids lourds, entrer au gouvernement serait synonyme d'exclusion. Et puis reportage à suivre dans les rues d'Elbeuf avec les militants de la France Insoumise, les législatives, on en reparle bien sûr avec vous Fabienne dans le téléphone sonne.
Et oui c'est vrai qu'on compte les députés nous ce soir, on imagine la prochaine Assemblée Générale, le dilemme de LR pour continuer à exister, s'allier avec les marcheurs tout de suite ou profiter de son ancrage local pour garder son indépendance, les alliances à gauche pour espérer une majorité à laquelle croit Jean-Luc Mélenchon, pendant que le RN évidemment veut former un vrai groupe en faisant lambiner les zémoristes. On met tout ça dans le shaker et ça se passe au 01 45 24 7000.
Dans cette édition, souveraineté agricole mais sauvegarde de la planète, l'équation agricole du quinquennat Macron 2 se complique, on va voir ça. Dans le journal aussi, Alger dans la rue pour son pouvoir d'achat et allez viens, je t'emmène au vent, la génération Louise Attaque frissonne ce soir, allez mon de la Lélie c'est Montmartre à Paris.
France Inter.
Des États-Unis qui appuient sur la pédale de l'accélérateur, prêts à remuer ciel et terre, disent-ils, pour faire gagner l'Ukraine contre la Russie, et Berlin qui semble sortir parallèlement de la prudence annonçant que le pays autorise la livraison à Kiev de blindés. Voilà l'un des temps forts du jour sur le dossier de la guerre en Ukraine qui semble à nouveau à un tournant. Et avec cette image donc, les représentants d'une quarantaine de pays à l'initiative de Washington réunis sur la base américaine de Ramstein dans l'ouest de l'Allemagne, à la rencontre du président ukrainien Zelensky. Et la question de l'armement a bien sûr été au cœur des discussions, David Philippot.
Ce sont des blindés datant de la guerre froide, retirés du service de l'armée allemande depuis 10 ans, 50 chars anti-aériens Guépard, bientôt livrés à l'Ukraine. Le ministre américain de la Défense avait pourtant expressément demandé aux participants la livraison d'armes modernes, mais lors de la conférence de presse finale, Lloyd Austin a bien remercié l'Allemagne pour, je cite, « ce progrès significatif ». Avec cette livraison directe d'armement à un belligérant, Berlin brise un tabou, malgré la crainte d'une troisième guerre mondiale, la menace d'une guerre nucléaire, réitérée hier par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, au grand regret du ministre de la Défense des États-Unis.
Aiguiser nos couteaux et spéculer sur l'usage d'armes nucléaires, c'est une rhétorique dangereuse et contre-productive. Personne ne veut une guerre nucléaire et personne ne peut la gagner, tout le monde la perd. Donc quand nous agissons, nous gardons toujours en tête l'idée d'être juste dans nos propos et d'avoir la bonne approche.
Lloyd Austin, qui a également confirmé que cette réunion entre alliés destinée à coordonner l'aide militaire à l'Ukraine aurait lieu désormais une fois par mois. Berlin, David Philippot pour France Inter.
Et pendant ce temps-là, autre image, celle du chef des Nations Unies, Antonio Guterres, en visite à Moscou, échange avec le chef de la diplomatie russe avant une conférence de presse commune au cours de laquelle Sergueï Lavrov assure côté Russie que le pays souhaite, je cite, protéger les populations civiles. L'ONU parle de son côté de crimes de guerre et interpelle Kiev et Moscou sur la question humanitaire. Écoutez Antonio Guterres.
Et l'établissement de corridors humanitaires doivent être mis en place. Et ces corridors doivent être respectés par tous pour évacuer les civils et leur apporter l'aide nécessaire. Et pour ce faire, j'ai proposé que l'on mette en place un groupe de contact humanitaire avec la Russie, l'Ukraine, les Nations Unies pour trouver des occasions de mettre en place ces corridors humanitaires en coopération avec les autorités locales et pour s'assurer que ces mesures soient efficaces. En même temps, nous reconnaissons que c'est une crise véritable qui a lieu à Mariupol, où des milliers de civils sont en grand danger et doivent être évacués. Les Nations Unies sont prêtes à complètement mobiliser ses ressources humaines et logistiques pour sauver les civils de Mariupol.
Antonio Gutiérrez, et sur le terrain, au moins 9 civils ont péri ces dernières heures dans des bombardements dans l'est et le sud de l'Ukraine, alors que la Moldavie a réuni aujourd'hui son Conseil de sécurité nationale après une série d'explosions dans la région séparatiste de Transnistrie, appuyée par Moscou, ce qui fait craindre un débordement de la guerre en Ukraine, détonation tout près de la frontière ukrainienne que la présidente moldave attribue sans détour à des groupes pro-russes voulant entraîner le pays dans le conflit.
L'actualité en France, Claire, 48 heures après sa réélection, Emmanuel Macron est attendu à son QG de campagne.
Oui, des déplacements ce soir après avoir passé la journée d'hier à la résidence de la Lanterne à Versailles, où il a donc planché avec son entourage à l'abri des regards sur la composition du futur gouvernement notamment. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Le président veut ce soir remercier les bénévoles et les salariés qui ont participé à sa campagne.
Oui, il vient juste de les rejoindre. On a entendu il y a une minute ici depuis l'extérieur une clameur s'élever depuis la terrasse sur laquelle sont réunis ces salariés, ces bénévoles. Ils sont une grosse centaine. Ce sont eux qui, pendant des mois, ont collé les affiches, distribué les tracts, prêté main forte à l'organisation des meetings. Avec Brigitte, on voulait vous dire un immense merci. Voilà les premiers mots d'Emmanuel Macron. Ce que vous avez accompli collectivement est inédit. Normalement, nous n'avions statistiquement et historiquement, aucune chance, a répété le président réélu, mais nous l'avons fait. Voilà ce qu'il vient de lancer à ses petites mains, disons, de la campagne. Des remerciements volontairement discrets, en tout cas privés. On a vu Emmanuel Macron entrer directement dans la cour de l'immeuble, dans sa voiture aux vitres teintées. Pas question de donner l'image de l'homme d'un clan. Il l'a dit d'ailleurs dimanche soir dans son discours sur le Champ de Mars. Je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Lui qui entend rassembler la France ne veut donc pas réserver à ses seuls partisans la première sortie officielle de ce second quinquennat. Cette première sortie officielle sera donc pour demain à 16h aux Invalides pour l'hommage national à l'immense comédien Michel Bouquet.
Simon Le Baron avec à la technique Geoffrey Marianne. A noté que le Conseil des ministres d'après deuxième tour de la présidentielle a lui été décalé à jeudi matin. Composition du futur exécutif législatif à droite. Les Républicains continuent de cogiter, de se réunir plus que jamais écartelés entre l'extrême droite et le centre. Comité stratégique encore ce matin sur l'avenir du parti au siège de LR. Bonsoir Anne Souhaitement.
Bonsoir Claire.
Encore pas mal de flou, mais une consigne ou plutôt un avertissement très clair qui a été lâché ce matin à court terme. Si les membres du parti rejoignent le gouvernement, ils seront exclus.
Oui, un petit parfum de 2017 flotté ce matin, rappelez-vous Claire, juste après l'élection d'Emmanuel Macron. En 2017, plusieurs LR, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, entraient au gouvernement et ouvraient une crise à droite. Et bien cette fois, les LR tentés par un Marocain sont prévenus avant, ils seront exclus. Il y a peut-être dans cette salle deux futurs ministres, a d'ailleurs grincé des dents Éric Ciotti dans la salle. Silence lourd de sens, même malaise sur les législatives, alors que certains plaident pour un rapprochement avec Emmanuel Macron. Bien, le parti a écarté tout accord, toute possibilité d'être candidat LR et candidat En Marche. Christian Jacob, son président, l'a dit à la sortie.
L'engagement qui sera signé par tous nos candidats, c'est ceux de siéger dans un groupe qui est totalement indépendant, donc qui n'est en aucun cas dans la majorité présidentielle, et encore moins avec les extrêmes. Le message, il est très clair. Il n'y a pas de double appartenance, il n'y en aura jamais.
Le problème clair, c'est que cette décision n'a pas été unanime. Deux voix ont manqué, celle de Damien Abad, patron des députés LR, et de Philippe Juvin, tous deux donnés partant pour la majorité. Silence qui fait aussi écho à une liste de parlementaires LR tentés par Macron et qui s'allonge. On a éteint un incendie ce matin, mais ça peut exploser à tout moment, confie un cadre. Preuve de cette fébrilité ambiante, 18 candidats investis aux législatives il y a quelques semaines ont finalement décidé de ne plus se présenter.
Anne Souhaitement du service politique de France Inter. Tandis qu'à gauche, sur la question des alliances en vue de ces fameuses législatives, les négociations entrent dans le dur. Ça patine entre la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et le Parti Communiste. Un peu compliqué, lâche Manuel Bompard, l'ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Prochain rendez-vous demain avec le Parti Socialiste. Mais certains militants ont décidé de ne pas attendre pour aller à la rencontre des électeurs appelés à nouveau à voter les 12 et 19 juin prochains. Reportage France Bleu Normandie à Elbeuf dans le quartier populaire du Puchot, signé Bénédicte Robin.
Premier objectif, une grande tour, 18 étages, une centaine d'appartements pour les 3 militants du secteur. Pas mal de portes restent fermées et parfois, quand elles s'ouvrent...
C'est pour les élections législatives, on fait le tour des...
Mais le plus souvent, l'accueil est cordial, même si les affinités ne sont pas forcément évidentes.
Vous en pensez quoi, Monsieur Mélenchon, vous, madame ?
Vous savez...
C'était pas trop votre candidat ?
Non, mais enfin...
Mais le dialogue se fait.
Voilà, donc je vous laisse quand même le petit tract... Pour les législatives, vous savez,
je veux voir ce qu'ils proposent.
Et les militants tentent surtout de convaincre les déçus d'Emmanuel Macron.
Ils ne s'occupent pas des familles modestes.
Si vous dites pour les gens modestes, hein, dans le programme de la France insoumise, si jamais on a la majorité à l'Assemblée nationale, c'est tout de suite le SMIC à 1400 euros. Hein. Il y a vraiment un programme social, en fait, et puis l'écologique, évidemment.
Et parfois...
Si c'était moi, Macron, je prends Mélenchon, Premier ministre.
Ah ben écoutez, ça tombe bien. En fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir la majorité à l'Assemblée nationale et par conséquent avoir Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre.
Ah, oui.
Ça, ce serait de la cohabitation.
Oui, c'est formidable. C'est ça que je veux, moi.
Autant d'enthousiasme reste quand même une exception, mais qui donne du courage aux militants qui projettent d'aller à la rencontre d'au moins 10 000 électeurs de la circonscription d'ici le premier tour, le 12 juin.
Et à 19h11, les industriels et les consommateurs attendaient cette décision.
Oui, elle est tombée ce matin face aux pénuries d'huile de tournesol en raison du conflit ukrainien. Les producteurs sont autorisés à remplacer cet ingrédient dans leurs recettes sans changer l'emballage. Un délai de 6 mois a été fixé pour changer les emballages, mais plusieurs niveaux d'alerte ont été mis en place en attendant cette échéance. Les produits qui contiendraient des produits allergènes, notamment, devront l'indiquer via des stickers dans les tout prochains jours sur les produits chips, margarine, sauce ou biscuits, des milliers de produits sont potentiellement concernés. Et si l'on remonte la chaîne agroalimentaire, nous voici au sein du monde agricole. Bonsoir Mariam El Kurdi.
Bonsoir Claire.
Prise de parole tout à l'heure des syndicats agricoles, alors que le président réélu promet une troisième révolution pour le secteur, avec cette nécessité de répondre à un enjeu majeur en plein conflit ukrainien, toujours celui de la souveraineté alimentaire. Produire plus tout en respectant la planète, est-ce possible? Clairement, tout le monde n'a pas la même vision sur ce sujet.
Oui Claire, la souveraineté alimentaire, c'est le mantra du premier syndicat agricole, la FNSEA. Et pour sa présidente, Christiane Lambert, il n'y a pas de secret. Il faut augmenter notre production agricole en France.
Depuis pas mal d'années, la France a trop capitulé sur sa production. Il faut produire plus de fruits et de légumes en France, plus de volailles en France et ne pas être dépendant d'autres pays. En cantine, 70% des poulets consommés par les convives sont étrangers, alors qu'on pourrait les fabriquer en France.
Produire plus, oui, mais sans négliger l'environnement, répond Nicolas Giraud de la Confédération Paysanne.
Tout ce qui a été mis au niveau de Farm to Fork, au niveau européen, au niveau des stratégies biodiversité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté.
Sachant qu'Emmanuel Macron envisage de réviser les objectifs de cette stratégie de la ferme à la fourchette, dont l'ambition est de verdir la production avec moins d'engrais, moins de pesticides par exemple.
Produire plus à tout prix aujourd'hui, c'est sacrément risqué pour ce qu'on va faire peser demain sur le monde agricole, sur le climat et sur notre environnement.
Mais Christiane Lambert n'est pas de cet avis.
Dans la stratégie Farm to Fork, toutes les études montrent que ça conduit à moins de production, à plus d'importations. On peut produire plus et mieux, avec moins d'impact, grâce à des techniques nouvelles, des innovations.
Des innovations comme la robotique ou le numérique, deux visions de l'agriculture, donc deux syndicats qui comptent se faire entendre pendant la campagne des législatives et pour le futur gouvernement, une équation à résoudre. Produire plus et en même temps planifier la transition écologique.
Mariam El Kurdi, pénurie alimentaire, inflation et pouvoir d'achat, des thèmes au cœur de la contestation sociale également. De l'autre côté de la mer Méditerranée, direction l'Algérie, après 4 ans de trêve, le front social s'enflamme. Une vingtaine de syndicats de la fonction publique ont appelé un mouvement de grève massif aujourd'hui et demain. Ils réclament des augmentations de salaire. Christian Chéneau.
Un pays riche en gaz et en pétrole, mais plombé économiquement et socialement, c'est tout le paradoxe d'une Algérie qui fournit 11% du gaz consommé en Europe. Mais avec la guerre en Ukraine, les prix explosent et rongent les salaires, analyse Kader Abderrahim, spécialiste de l'Algérie à Sciences Po.
L'Algérie est concernée aussi par la situation générale de la guerre en Ukraine, avec les prix des denrées alimentaires et des céréales, notamment dans l'Algérie, est une grande consommatrice qui explose. Et puis rappelons tout de même que nous sommes dans le contexte de Ramadan, où les tables se doivent d'être garnies et que peut-être on dépense plus que d'ordinaire. Et cela alimente également cette grogne.
Sur la table des Algériens, la viande est inabordable. Manger du poisson est devenu un luxe. Les gens consomment de plus en plus de lentilles et de pois chiches qui sont devenus la viande du pauvre grâce à leur teneur en acides aminés. Sur la défensive, le pouvoir algérien a promis des augmentations de salaire d'ici la fin de l'année en fonction des recettes liées aux exportations d'hydrocarbures.
Dans l'actualité à l'étranger, encore le naufrage d'une embarcation de migrants au large des îles Canaries espagnoles et ce lourd bilan, un mort et 26 disparus. Les gardes-côtes ont secouru 34 personnes. Et puis ce soir, la France déplore très officiellement et très vivement la condamnation à la perpétuité du mécène turc Osman Kavala, accusé d'avoir tenté de renverser le gouvernement turc, ce qu'il a toujours nié.
Elle était devant le Conseil d'État cet après-midi.
Oui, deux associations pro-palestiniennes contestaient leur dissolution, dissolution prononcée par un décret du 9 mars dernier. Le comité Action Palestine et le comité Palestine vaincra, implanté pour l'un à Bordeaux et pour l'autre à Toulouse, sont accusés d'appeler à la haine, à la violence et à la discrimination. Nolwenn Lejeune.
Un soutien inconditionnel à la résistance du peuple palestinien. L'objet social du comité Action Palestine est très clair, explique son avocat. Avocat Vincent Brengart. Mais vos propos outranciers incitent à la haine des Juifs, accuse la représentante de l'administration. Nazi, petit État qui ressemble à un abcès, excroissance maligne qu'il faut arracher du monde. Elle lit ce qui a été publié sur sa page Facebook en 2021. Tout ça s'inscrit dans le débat d'idées, rétorque l'avocat de l'association qui dénonce une dissolution pour des raisons électoralistes.
C'est une association qui existe depuis 17 ans, contre laquelle il n'y a eu strictement aucune poursuite pénale, aucune mesure administrative. Et puis, subitement, dans le cadre des élections présidentielle, vous avez une mesure de dissolution.
C'est la recrudescence des actes antisémites en France qui justifie la mesure, précise l'administration, qui s'indigne non seulement des propos relayés, mais aussi des commentaires des internautes. Des commentaires que Cécile Brandly, avocate du collectif Palestine Vaincra, regrette également, mais elle trouve la mesure disproportionnée.
L'administration aurait pu choisir une autre voie que la dissolution, qui constitue un anéantissement, une mise à mort de l'association. On aurait pu imaginer de mettre en demeure l'association, de retirer certains commentaires qui paraissent litigieux. En aucun cas, à mon sens, on peut considérer que l'insuffisance de modération, si elle existe, est une complicité du collectif.
Le Conseil d'État devrait rendre sa décision d'ici la fin de la semaine.
Quelles que soient les orientations du nouvel actionnaire en matière de liberté d'expression, le Twitter d'Elon Musk devra s'adapter aux règles européennes. Réaction du commissaire européen Thierry Breton après le rachat annoncé hier soir du réseau social par le patron de Tesla et de SpaceX pour 44 milliards de dollars. Tous les réseaux sociaux doivent être responsables, met en garde de son côté aujourd'hui le chef du gouvernement britannique Boris Johnson. Bonsoir Adrien Taufollet.
Bonsoir.
Vous avez épluché de votre côté la presse spécialisée américaine. On y parle des enjeux de liberté d'expression, bien sûr, au vu des déclarations et des convictions affichées d'Elon Musk, mais pas seulement.
Oui, il y a des craintes très précises qui concernent le risque de voir un seul homme posséder et modeler à sa guise un service utilisé par plus de 200 millions de personnes dans le monde tous les jours. Il y a deux qualificatifs qui reviennent souvent dans la presse au sujet d'Elon Musk, mégalo et stratège. C'est un homme, rappelle le magazine Wired, qui ne joue pas comme un entrepreneur classique jouerait, qui a des intérêts économiques à protéger, même s'il assure le contraire. Twitter, par exemple, est utilisé par de nombreuses entreprises en concurrence avec les siennes et il y a un risque d'abus, alerte le magazine TechCrunch. Musk pourrait très bien se comporter en dictateur bienveillant avec ceux qui se résoudraient à lui faire une révérence, mais bannissant les autres de son jouet à ses désirs. Et puis, certains observateurs, comme la spécialiste technologie de Vice, Melissa Chan, se demandent aussi jusqu'où il pourrait aller pour les protéger, ses intérêts. La Chine est stratégique pour Tesla. Le pays représente 30% de ses ventes mondiales. Elon Musk a une usine de voitures à Shanghai et soigne ses relations avec les autorités pour continuer à se développer. Que se passera-t-il donc si un jour Pékin lui demande des informations sur certains utilisateurs, un activiste hongkongais par exemple, pour qui Twitter est un espace précieux de liberté.
Adrien Taufollet, des informations à retrouver sur franceinter.fr. Et celle-là d'info, officielle depuis une petite heure seulement, c'est l'acteur français Vincent Lindon qui présidera le 75e Festival de Cannes. La dernière star française présidente du jury du Festival de Cannes remonte à 2009 avec Isabelle Huppert. Enfin, chose promise, chose due, 25 ans après, Louise Attaque remet le son. Ça se passe à l'Élysée Montmartre, à Paris, pour une soirée parisienne anniversaire live streamable gratuitement en ce moment même. 6 concerts gratuits aujourd'hui depuis 11h ce matin et jusqu'à 21h. Sébastien Sabiron était au concert de 11h. C'est parti.
Bonjour tout le monde, comment allez-vous ?
Les visages ont gagné quelques rides, mais l'énergie est toujours là, tout aussi irrésistible qu'il y a 25 ans.
Ouais, mon père.
bûcher sur une scène centrale en forme de gâteau d'anniversaire, dit-il. Gaëtan Roussel et ses acolytes goûtent la joie de ces retrouvailles matinales.
Parce que nous, c'est notre premier concert à 11h du matin.
Comme dans les premiers concerts, les 14 titres de l'album s'enchaînent sans temps mort, sans fioritures et avec des refrains inoubliables.
Allez viens, je t'emmène au bord, je t'emmène au-dessus des gens.
Et même amputé de son batteur originel, la nostalgie Louise Attaque fonctionne à plein.
C'est le lycée, c'est la fac, des vacances d'été avec mon frère, on a passé en boucle l'album.
Moi, les feux de camp au bord du ensemble de loisirs avec les animateurs, les amis, enfin, c'est de la nostalgie beaucoup.
Un public aux tempes résonantes, mais pas seulement.
Je suis venue avec mes parents et ma petite sœur. Depuis qu'on est toute petite, nos parents nous ont bercé à leur musique, donc je suis encore un peu émue.
Ouais, je vois, vous avez les larmes aux yeux.
C'était trop bien.
J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû courir dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison.
Et pour qui aurait raté l'invitation de Louise Attaque, leur concert anniversaire est retransmis en streaming en ce moment même.
Voilà, même à 11h du matin,
oui,
la magie de,
c'est ça, le vrai
de Louise
exploit,
Attaque,
en fait.
Au père, en tout cas auprès des tempes grisonnantes.
Oui, hein, Fabienne, merci beaucoup. Vous pouvez sortir maintenant, Claire Chaudière. Déjà, je n'ai pas de tempes, je voulais le dire ici. Allez, à demain.
À demain.